Bonjour Marc-André Selos.
Bonjour.
Vous êtes biologiste, professeur au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Vos recherches portent notamment sur l'écologie et l'évolution des plantes et des champignons. Mais c'est aux molécules que vous dédiez votre dernier ouvrage, Les goûts et les couleurs du monde, une histoire naturelle des tanins de l'écologie à la santé, publié chez Actes Sud. Les tanins, c'est une famille de molécules des plantes, on peut parler également de polyphénols. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont leurs rôles au niveau des plantes à ces tanins ?
Alors oui, bien sûr, parce que vous avez dit que c'était un livre dédié à des molécules. Bon, c'est pas faux, mais en réalité, c'est un livre sur la vie, quoi. Notamment la vie des plantes, la vie des sols, la vie des écosystèmes et la vie au sein de notre alimentation, parce que ces tanins, ils sont absolument partout. Effectivement, c'est des molécules qui se caractérisent techniquement par la présence d'un phénol. Bon, j'ai élargi une définition qui n'est pas toujours très clair en biochimie de ce que sont les tanins. Pour moi, c'est tous les phénols, les polyphénols, y compris ce qu'on appelle au sens très très strict les tanins. Et toutes ces molécules, elles ont quelques propriétés relativement simples. Elles sont souvent colorées, elles sont souvent odorantes, elles ont de l'affinité pour les protéines, qui en fait dessinent tout un tas de choses de notre vie ordinaire. Je dis souvent que les tanins, c'est un peu comme si on avait quelqu'un qui vivait à la maison, qui mangeait à notre table, qui était là tous les jours et qu'on n'avait même pas conscience de son existence ni de son nom. Ils se cachent au détour de la coloration des plantes, de la coloration et du fonctionnement des sols, des odeurs quand on est dans la nature, et puis de notre alimentation, les couleurs de nos aliments, les épices, le vin, le thé, bien sûr, ça on le sait, et aussi tout un tas de matériaux comme le bois, le liège, qui sont en fait faits de tanins. Donc ils sont effectivement complètement omniprésents autour de nous, et donc c'est un livre et une famille de molécules qui nous parle du quotidien, oui. Alors il y a à la fois des petits tanins, on dit solubles, qui eux vont avoir tout un tas de rôles. Essentiellement, c'est des choses qui sont indigestes pour les animaux parce que ça s'attache à leurs protéines digestives et ça les empêche de fonctionner. Et donc on ne digère plus et on se dénourrit tout en mangeant. C'est ce qui est arrivé notamment à des antilopes d'Afrique du Sud, les koudous, qu'on avait enfermés dans des parcs pour les protéger de la chasse. Puis là, elles ont mangé, remangé les mêmes plantes qui ont fini par se défendre en accumulant des quantités faramineuses de tanins et les tuer. Donc, c'est une défense contre les animaux, mais c'est aussi des molécules qui absorbent la lumière et qui peuvent servir de crème solaire, si l'on veut. C'est des molécules également qui vont avoir des rôles de consommation de l'oxygène, donc des rôles antioxydants. C'est ce qui se passe quand on coupe une pomme et qu'elle brunit. Ce qui brunit, c'est des tanins, mais en fait, cette réaction de brunissement est surtout quelque chose qui consomme l'oxygène et protège la plante d'un choc d'oxygène. Ça protège contre les radicaux libres. Comme ça absorbe la lumière, ça la restitue sous forme de chaleur et ça peut légèrement chauffer la plante. Donc ça a tout un tas de rôles protecteurs contre, disons, tous les stress, animaux ou autres, le froid, l'excès de lumière, etc. Et puis il y a les tanins géants de la plante, qui sont ceux qui rigidifient le bois, c'est la lignine, qui sont ceux qui imperméabilisent l'écorce, c'est la subérine, et qui font que les tanins géants sont aussi des molécules qui construisent la plante. Et au total, tout ça, ça nous fait 30 à 40% de la masse des écosystèmes qui nous entourent. C'est-à-dire qu'en plus de faire tout ça, ils sont très présents quantitativement autour de nous.
Qu'est-ce qui explique justement qu'ils soient si peu connus, s'ils constituent autant notre monde ?
Alors dans mon livre que j'ai appelé « Les goûts et les couleurs du monde », parce qu'ils parlent à nos sens quand même. Hein. On peut les goûter, on peut les voir, on peut les sentir. En bouche, ils ont de l'astringence, hein, cette espèce de raideur, de rugosité qu'a un vin trop jeune ou un thé très infusé. Ils sont très présents si on écoute nos sens. Mais ils ne sont pas présents dans nos cours de biochimie. Alors ça, je peux vous le dire, ce n'est pas à la fac qu'on m'a appris les tanins. Et ils sont peu présents dans notre inconscient collectif où l'histoire des molécules vivantes, c'est surtout les glucides, les lipides et les protides. Bon, on oublie juste 40% de la biomasse. Mais ils n'y sont pas très présents. Et je m'interroge dans ce livre sur les raisons de ça. Une fois que j'ai établi comment ils sont importants et pourquoi ils sont importants, je me pose cette question. Je crois qu'il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est qu'on n'est pas assez sensible à nos sens et on ne se pose pas la question quand on ressent quelque chose, une odeur, un goût, on ne se pose pas assez la question du pourquoi. Mais l'autre chose, c'est que ce sont des composés de plantes. Les animaux en sont plutôt les cibles. Bon, parfois, ils les utilisent, comme nous, dans nos épices ou dans certaines boissons comme le vin ou toutes les boissons infusées. Mais ils sont surtout des cibles, des flèches de défense que leur décochent les plantes sous forme de tanins. Et comme ce sont des molécules végétales et que nous n'avons du végétal qu'une conscience de présence dans le décor, mais pas des vraies questions sur le végétal, ben voilà, comme c'est, donc le végétal, on s'en fout. D'ailleurs, au passage, si je peux fustiger quelque chose, c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'intéresse de nouveau aux plantes, mais en leur plaquant des traits animaux. L'entraide, l'intelligence, la sensibilité. Pourquoi pas ? Mais au fait, il y a des choses qui sont l'essence des plantes, comme le fait d'avoir une espèce de sac poubelle au fond de chaque cellule où elles peuvent stocker des déchets. Et comme ce sac est hermétique, elles peuvent aussi stocker des toxines qui n'iront pas l'intoxiquer elles-mêmes. Et c'est pour ça que 9 dixièmes des plantes sont toxiques. Et c'est comme ça qu'elles ont des tanins, qui sont des choses qui foutent en l'air le fonctionnement des cellules. Mais elles, elles ont une vacuole que les animaux n'ont pas. Elles peuvent donc les stocker en évitant tous les dégâts dans leurs propres cellules. Voilà, les plantes ont des vacuoles, c'est pour ça qu'elles ont des tanins. Et comme on ne s'intéresse pas assez aux plantes, on ne nous parle jamais de ces vacuoles, ni de ces tanins. Et pourtant, perdu dans la nature, vous pouvez manger n'importe quel animal, mais évitez de manger n'importe quelle plante. 9 chances sur 10 d'y passer.
Et vous, justement, qu'est-ce qui a forgé cette envie d'en savoir plus sur les tanins, d'avoir envie de creuser cette question-là ?
C'est bien que cette radio s'adresse à des étudiants, parce qu'en fait, c'est eux qui ont fait ce livre. C'est pas mes cours quand j'étais à la fac qui m'ont appris ça. C'est en répondant à des questions, pourquoi les feuilles changent de couleur en automne, pourquoi le sol est noir, par exemple, pourquoi le foin sent cette bonne odeur de foin séché, pourquoi les hortensias, au fait, sont-ils pas toujours bleus alors qu'on voudrait qu'ils soient bleus. Tout ça, c'est des histoires de tanins. Et en répondant aux questions d'étudiants, souvent les tanins revenaient en boucle dans les explications que je trouvais parfois péniblement. Et donc à la fin, je me dis, mais enfin, c'est la belle au bois dormant. Il faut lui donner un baiser pour la réveiller parce qu'ils sont là partout. Les observations qui sont expliquées par les tanins, nous les avons tous faites, toutes faites. Hein. Mais par contre, l'explication tanin, le mot-clé n'est pas lâché. Donc voilà, j'ai essayé de faire un livre pour leur donner une carcasse et montrer en quoi ils sont omniprésents, en quoi ils construisent le monde qui nous entoure.
On parlait tout à l'heure de la toxicité de certaines plantes du fait des tanins notamment. On les retrouve, les tanins, dans les épices, dans le cacao aussi qu'on mange. On retrouve la noix de muscade, le curcuma, l'origan. Ce qui est assez paradoxal, c'est que du coup, ces tanins vont justement protéger la plante et la rendre toxique pour les animaux qui la mangent, c'est le cas des antilopes en Afrique. Est-ce que ces épices sont toxiques également pour les êtres humains ? Et qu'est-ce qui nous a poussé dans ce cas-là à les intégrer à notre alimentation ?
Alors ça, c'est un vrai paradoxe, hein. Vous faites bien de le souligner, moi j'y consacre une partie du livre, c'est pourquoi donc mettons dans nos boissons, vin, infusion, bière, à travers le houblon, pourquoi est-ce qu'on met des tanins, alors que ces tanins sont anti-animaux, coupent la digestion, voire ont des toxicités propres. Je vous rappelle par exemple qu'il y a un tanin, hein, qui est celui qu'on trouve dans la Joubrovka, la vodka d'herbe de bison, en grande concentration, c'est le composé actif des raticides. Parce que ça empêche la coagulation en se fixant sur les protéines de la coagulation. Alors, en fait, il faut remonter à l'époque où nous n'avions ni frigo, ni produits frais, ni eau courante, ni eau en bouteille. À cette époque-là, les eaux étaient contaminées par les fécès, par les excréments autour des maisons. Et c'est en cela que Pasteur dit que le vin est la plus saine des boissons, c'est qu'il vaut mieux boire du vin que de boire de l'eau qu'il y a à la maison. Pourquoi ? Bon, bien sûr, il y a de l'alcool, mais il y a aussi des tanins. Ces tanins, ils sont antibiotiques. Ils empêchent les microbes de se développer. Et les tanins de la bière, les tanins du vin, les tanins de toutes les boissons chaudes que l'on peut imaginer, qui fleurissent dans plein de civilisations différentes. Pensez au rooibos, pensez au maté, pensez au thé, pensez à nos infusions. Tout ça, ben, c'est des protecteurs. Et dans les aliments, c'est pareil. Les épices qu'on rajoute sont toxiques. La myristicine, par exemple, est un hallucinogène à haute concentration, mais n'essayez pas, hein, parce que ça fait super mal au bide aussi. La piolle du persil et les psoralènes qu'il y a dans le persil et le céleri sont des composés qui sont photosensibilisants. Et d'ailleurs, ça pose des problèmes aux agriculteurs qui en produisent. À force, ils finissent par se sensibiliser à la lumière et avoir des gros problèmes de peau. Toute la réponse, c'est la quantité et le fait qu'en ajoutant ça dans une quantité bien choisie aux aliments, ça empêche les microbes de s'installer. Et en plus, c'est des antioxydants. On l'a dit tout à l'heure dans leur rôle dans la plante. Ils luttent contre les effets pervers de l'oxygène et contre les radicaux libres. Ben ça, ils vont aussi le faire dans les aliments quand vous les avez rajoutés. Donc toute l'idée est de mettre une dose qui est à la fois antioxydante et antimicrobienne. Et c'est ces pratiques culturelles qui ont été développées et qu'on apprend, mais qu'on apprend difficilement. Au début, on n'aime pas les aliments tanniques parce qu'ils sont amers, parce qu'ils sont astringents. Et enfin, on a à apprendre ça. C'est donc vraiment un trait culturel qui recouvre notre trait biologique. Et aujourd'hui, où la nécessité biologique d'avoir des antioxydants et des antimicrobiens dans les aliments est moins marquée, eh bien, on a toujours cette transmission culturelle. On continue d'apprendre ça aux enfants et à en faire, finalement, après apprentissage, une source de plaisir. On le fait toujours, mais on le fait plus, justement, comme un trait culturel que l'on transmet et pour le plaisir que ça donne, mais qui est un plaisir appris. Une fois de plus, les enfants n'aiment pas. D'ailleurs, le chocolat, par exemple, les enfants, ils le prennent très, très, très adouci par les ajouts de sucre et de lait, parce que les tanins vont se fixer aux protéines du lait. Et donc, on n'aura plus ni l'astringence, ni l'amertume. Donc, les enfants arrivent très difficilement au tanin. Instinctivement, ils les évitent. Et vous savez, quand on en prend beaucoup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va pisser. C'est le principe des pissenlits, c'est le principe des infusions et toutes ces médications d'herbes qui finalement font pisser, hein, les pisse-mémés, comme on dit pour les infusions. Je prends à dessein ce mot. En fait, notre corps lui-même les expulse. Parce qu'on ne peut ni les incorporer dans notre masse, on n'a pas de façon de les métaboliser, comme on dit techniquement, et donc ils sont plutôt pas bons, donc on les reconduit à la frontière, si j'ose dire. Et ça, donc, c'est vraiment quelque chose d'appris. Mais une fois qu'on l'a appris, c'est une source de plaisir considérable, puisque je vous ai dit, à travers l'amer, il contribue au goût. Je vous l'ai dit, avec l'astringence en bouche, il contribue au toucher, ou par exemple au velouté du cacao. Et puis, toutes ces molécules sont aromatiques, elles vont passer dans l'arrière-nez et faire les goûts. Et puis, il y a aussi le fait qu'elles sont souvent colorées, pensez aux couleurs du vin. Anthocyanes, flavonoïdes, quercétine, tout ça, c'est ce qui colore le vin, par exemple. Hein. Ou le cacao, c'est des tanins qui ont bruni. Et donc, au total, c'est aussi un plaisir esthétique. Donc, finalement, quand on a approché les tanins culturellement dans des doses et en choisissant bien les tanins qu'on approche, eh bien, on approche tout simplement du plaisir des sens.
Parler justement de la propriété d'astringence, c'est ce qui se passe aussi au niveau dans la bouche quand on prend du vin qui devient beaucoup plus rugueuse. Est-ce que c'est la même chose aussi, toute cette relation aux protéines, entre les tanins et les protéines, c'est la même chose qui se passe dans le tannage du cuir par exemple?
Exactement. Cette affinité pour les protéines fait qu'ils vont se fixer lorsque l'on met des copeaux de bois, souvent de chêne, en présence de cuir qui sont constitués de collagène, ils vont se fixer dessus et ils vont faire un complexe tanin-protéine qui va avoir deux caractéristiques. La première, c'est d'être beaucoup plus résistant mécaniquement. Et la deuxième, c'est d'être beaucoup plus difficile à digérer pour les microbes, donc d'être plus imputrescible. Et ça, eh bien, c'est la raison d'être du tannage. Et d'ailleurs, c'est de là que vient le nom de tanin. Car bien avant d'avoir fait de la biochimie, nos ancêtres fréquentaient déjà les tanins pour tanner les cuirs. Les tanins, c'était les principes actifs qui permettaient à ces copeaux de chêne de tanner les cuirs. Et en fait, vous savez quoi? En fait, tanin vient d'un mot gaulois qui désigne le chêne. Le tan, c'est le chêne. Tout simplement. Et le nom du tanin vient du chêne. Alors c'est d'ailleurs assez amusant linguistiquement parce que effectivement on a oublié le tan, sauf certains biologistes à cause de certains noms d'organismes, mais c'est une autre histoire, notamment un myxomycète qui s'appelle le fleur de tan, ça c'est la spéciale dédicace pour les étudiants en bio, s'ils connaissent les myxomycètes. Mais on a un petit peu oublié, on parle plus gaulois, mais c'est un mot effectivement qui vient de là, qui est un mot de la ruralité, comme beaucoup de nos héritages celtes en français, et qui ne va pas être un mot du vocabulaire noble. En plus, les tanneries, ça pue, donc c'est un truc de gueux. Et donc, le vocabulaire noble s'empare très peu de ce mot, qui va donc avoir une orthographe complètement pas fixée. Ça s'écrit avec un ou deux N aujourd'hui. Hein. Et pour terminer sur les aspects linguistiques, alors bon, tous les dérivés de tanin ayant deux N, moi j'aime bien mettre deux N à tanin, mais vous pouvez n'en mettre qu'un. Hein. Et pour terminer sur cet aspect linguistique, c'est assez amusant que dans les pays du Nord où il n'y a pas trop de chênes, bah on a remplacé, pour avoir des tanins, pour le tannage, le chêne par d'autres arbres, notamment le Tannenbaum, l'arbre à tanin allemand, qui est en fait le sapin. Parce que dans certaines régions, c'est le sapin qu'on utilise pour tanner, faute d'avoir assez de chênes sous la main. C'est assez amusant que le chêne a fini par donner son nom au sapin par le biais des tanins. Il y a beaucoup d'autres arbres qui permettent de tanner. Les Marocains, par exemple, hein, ces cuirs avec un tannage qui a une jolie note orange, donc qui a aussi une belle qualité visuelle, mais qui réalise un tannage très souple, hein, de grande qualité, c'est des pistachiers. C'est des arbres du genre pistachia qui servent à donner les tanins. Donc on peut tanner avec d'autres tanins, mais je vais vous dire, ça prend du temps. Et aujourd'hui, malheureusement, l'essentiel des cuirs sont tannés à la va-vite, au chrome, donc avec des tannages métalliques, qui sont beaucoup plus polluants pour l'environnement, ben beaucoup plus rapides et moins chers, puisqu'on ne paye pas les coûts induits sur l'environnement par l'activité économique, n'est-ce pas ? Et donc, aujourd'hui, c'est rare le tannage. Mais ça reste, pour les cuirs de qualité, ça reste fait à la fois parce que c'est traditionnel et parce que, disons-le, la qualité de cuir obtenue est quand même légèrement supérieure, oui.
Merci beaucoup, Marc-André Sellos.
Merci.